Revue de presse de l'April, semaine 35, année 2013. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, cette rentrée?
Eh oui, superbe rentrée, après 2 mois de congé de la revue de presse. Donc, la pleine forme, et on est parti pour une année encore.
Alors
donc,
bon, faut savoir que je pars en vacances en octobre, mais bon.
On se débrouillera, il y aura Nicolas qui reviendra. Je suis sûr qu'entre 2 missions et 2 mises en prod, il va pouvoir nous aider.
Alors, on est dans les nouveaux locaux de l'April qui vient de déménager ce soir.
Une transcript partie.
Et oui, et donc ça va peut-être sonner pendant qu'on enregistre, mais on verra bien. Donc, qu'est-ce qu'on a au menu?
Donc, cette nouvelle, rien de bien spécial, mais quand même. Donc, on a peut-être finalement la mort de la Depi et son transfert au CSA malheureusement. La sécurité d'un logiciel privateur, les brevets logiciels, les standards ouverts et la Commission européenne, les budgets de logiciels au ministère de la Défense, une petite initiation au logiciel libre sur nos PC, et pour finir, la région de Valence qui passe à LibreOffice.
Numérama, Adopi, le transfert au CSA pourrait se faire en douce avant l'hiver, un article de Guillaume Champeau.
Donc en gros, Adopi meurt, mais risque de ressortir sous forme de zombie peut-être.
Une forme de réincarnation.
Donc si je comprends bien, c'est une bidouille. Ils sont en train de filer les pouvoirs de la Adopi au CSA, donc qui est un organisme qui n'a rien à voir pourtant. On pourrait même considérer que c'est l'héritier des vieilles institutions qui faisaient de la censure et qui gèrent la télévision et les médias, pas du tout... comme le net, pas en réseau.
Ah, ça n'a pas grand-chose à voir. Cette idée de transfert de compétences, elle vient du rapport Lescure. C'était une des grandes idées du rapport. Bon, on n'est pas totalement convaincu par le machin, y compris au sein des députés. Et le gouvernement serait en train de monter un tour de passe-passe, voilà, pour passer ça sans se lancer dans des débats très compliqués. Ils doivent se rappeler toutes les foires d'empoigne sur Adopi et ils veulent probablement s'épargner ça.
Donc là, il est question de passer par une commission mixte paritaire entre des députés et des sénateurs et ensuite d'aller vite, c'est de l'urgence.
C'est une procédure d'urgence, ils votent des éléments. Et ensuite, ces éléments sont dans une loi où il y a évidemment plein d'autres choses dont on n'a pas nécessairement envie de se débarrasser parce qu'il y a sans doute des trucs bien dedans. Et en gros, on prend tout ou on laisse tout. Donc, c'est une forme de prise d'otage législative.
Donc, ça fait vraiment gueuler, y compris chez les députés socialistes. On va voir ce qu'ils en font. C'est possible que ça passe. Hein. Et puis, après tout, moi, je me réjouis. Adopi est mort. Bon, vive le CSA, je suis pas sûr. Mais voilà, une bonne nouvelle à la fois.
On verra ça. Le monde informatique... Des développeurs cassent la sécurité du client Dropbox, un article de Jacques Cheminat.
Alors Dropbox, c'est du privateur de chez privateur, ça.
Et c'est du service hébergé, il s'agit d'utiliser un truc sur Internet comme une sorte de disque dur distant.
Voilà, mais il faut quand même installer une partie de logiciel sur son ordinateur pour l'utiliser au mieux. Enfin, je crois que c'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est ce que font la plupart des gens. Et bah, y a des chercheurs qui ont démontré toute une faille de sécurité qui permet de s'authentifier au nom de quelqu'un d'autre. Il faut avoir un accès à son ordinateur quand même, hein, c'est pas rien. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est ce qu'ils en tirent comme conclusion.
Bah, ils appellent Dropbox à faire un client sous licence libre en disant « bah voilà, si votre machin était libre, il serait mieux fait, plus sûr et il aurait été... » revu par la communauté et aurait été de meilleure qualité.
Oui, ce que je rappelle, hein, c'est pas parce qu'on fait des logiciels libres qu'on n'a pas de bugs et des trous de sécurité, c'est juste que bah, il y aura plus de gens pour le regarder, ça pourra évoluer plus rapidement, sera peut-être corrigé par des gens intelligents comme ces deux chercheurs qui ont trouvé ces failles.
Clubic.com, brevet logiciel, où en est la France? Un article d'Olivier Robillard.
Donc c'est une nouvelle qui est intéressante et qui est bonne, qui nous provient de Nouvelle-Zélande.
Et oui, la Nouvelle-Zélande a voté un texte interdisant la brevetabilité du logiciel, donc c'est une excellente nouvelle.
Je rappelle, en France et en Europe, c'est aussi interdit.
Oui, alors c'est interdit, mais si le logiciel est intégré dans du hardware, etc., on peut. Et puis l'EOB a accepté des dizaines de milliers de brevets logiciels en désaccord avec la loi. Mais parce que voilà, c'est du bon business. Et ils anticipent sans doute un retournement qu'ils ont tenté avec le brevet unitaire dont on a beaucoup parlé l'année dernière.
Et oui, pour eux, c'était un bon cheval de bataille, un cheval de Troie, on pourrait dire, qui leur permettait de s'arroger beaucoup plus d'indépendance en sortant des institutions européennes pour une large part, des institutions existantes.
L'EOB n'est pas une institution européenne en dépit de son nom. Et donc, ils n'y étaient pas avant, ils n'y seront pas après. Enfin, c'est une des choses qui nous pose problème.
Mais il me semble qu'ils sont quand même couverts par des éléments juridiques européens. Et justement, ils voudraient s'en extraire et obtenir un peu plus d'indépendance au nom de ce brevet unitaire qui nous embête bien. Parce que je rappelle aussi, c'est que le brevet logiciel, c'est un des moyens qui permettrait d'interdire le logiciel libre.
De limiter en tout cas de façon vraiment, vraiment drastique. En tout cas, cet article est intéressant. C'est-à-dire qu'il profite de cette actualité à l'autre bout du monde pour faire le point sur ce qui se passe chez nous. Et ça, c'est pas mal. Le cercle Les Échos, standard ouvert. La Commission européenne explique comment économiser 1 milliard d'euros. un article de Patrice Bertrand.
Patrice Bertrand, c'est quelqu'un dont on parle pas mal dans la revue de presse.
Bah, très très souvent, en fait, il tient des chroniques dans des magazines de ce type-là. Les Échos, c'est vraiment le titre qui, voilà, pour les gens sérieux en économie, donc c'est vraiment très très bien qu'il ait cette chronique-là. C'est le patron d'une des plus grosses boîtes du libre en France, et c'est également le président du Comité National du Logiciel Libre, qui est une association d'entreprises. Voilà. Et donc, il revient très régulièrement avec des chroniques qui sont plutôt bien faites.
Et pertinentes.
Et celle-là parle des standards ouverts.
Donc les standards ouverts, en gros on pourrait dire, c'est le fait qu'on puisse utiliser des formats de fichiers par exemple, ou des formats de flux, des protocoles qui sont facilement utilisables, il n'y a pas de blocage.
Donc on a la recette de cuisine, on sait comment c'est fait, n'importe qui peut l'utiliser, l'implémenter. Il y a une sécurité juridique parce que derrière il y a des licences donc, qui font qu'on sait que ça va pas changer, que quelqu'un va pas dire « Ah bah maintenant vous avez plus le droit » ou « Du jour au lendemain je change les conditions d'usage, etc. » Donc on peut bâtir du solide dessus.
Là pour le coup c'est du très solide, la Commission européenne qui revendiquerait jusqu'à 1 milliard d'euros d'économies si, alors c'est quoi, les États européens se mettaient au standard ouvert, il me semble.
Oui, un truc dans ces eaux-là, et donc c'est pour le public, mais évidemment ça s'appliquerait très bien dans le privé également. Et leur calcul est de dire que si on impose des standards ouverts, on aurait deux fois plus d'entreprises qui pourraient répondre aux appels d'offres, et que ça générerait, selon des calculs dont on ignore la teneur, ça générerait une baisse de 9% des coûts.
Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Moi, à mon avis, c'est pas très compliqué, hein. Si tu utilises des standards ouverts, ben, y a plus de gens qui peuvent rentrer en concurrence, parce que tout simplement on a moins de monopoles, moins de rentes de situation. Et donc à partir du moment où on a plusieurs acteurs qui peuvent intervenir, ben, on facilite la vie, on est moins coincé.
Bertrand saisit l'occasion dans son article pour bien définir ce que c'est qu'un standard ouvert et pour dégommer la notion de fraude, qui est une sorte de machin en gros où on dit oui, c'est bon, c'est pas ouvert, mais on peut l'utiliser de façon non discriminatoire et raisonnable, donc c'est très flou, ça reste propriétaire.
Ça demande un petit coût, alors normalement pas trop élevé, mais quand même existant.
Voilà, enfin, c'est très très flou, et donc c'est des trucs qu'on n'aime pas du tout dans le libre.
PC Impact, 70,3 millions d'euros de logiciels en 2011 pour le ministère de la Défense, un article de Xavier Berne.
Alors ça a été le fil rouge de l'été, grâce à une députée dont j'ai oublié le nom, tu te rappelles ?
Attard.
Voilà, et donc cette députée a posé une question au gouvernement, elle a demandé à ce que, ministère par ministère, on sorte les chiffres liés aux logiciels.
Les dépenses en logiciel et en informatique de chacun des ministères. Et donc, évidemment, c'était l'occasion de voir si les dépenses en logiciel libre étaient importantes ou pas. Et évidemment, le ministère de la Défense, avant l'été, s'était distingué avec l'accord open bar Microsoft.
Et sachant tout ce qui s'est passé cet été avec Prism et autres problématiques sur les éditeurs américains.
Voilà, c'était la très très belle illustration que leur message rassurant en disant que c'était pas un problème et tout ça... méritait d'être pris avec des pincettes. Et donc là, ils ont donné les chiffres, et c'est des chiffres sans doute justes, mais en tout cas assez peu détaillés.
Oui, mais là, on a une enveloppe globale, donc 70 millions pour ce ministère. Il y a d'autres choses qui sont sorties justement tout cet été. Ce qui est amusant, c'est que suite à une erreur dans la transmission des chiffres, ils nous ont aussi transmis ce qu'ils allaient nous sortir au final. Donc je crois que on arrive à un chiffre de 300 millions d'euros sur tous les ministères, donc c'est un chiffre assez conséquent, et ça ne comprend pas tout le reste de ce qui comprend l'État français, notamment les collectivités territoriales, et plein d'autres administrations qui ne seraient pas forcément dans ces choses-là.
ITR News, le saviez-vous, votre ordinateur est plein de logiciels libres, un article d'Elisabeth Racine.
Donc un petit article sympathique, comme on les aime, qui présente un peu les avantages de jeter un œil dans ce qu'on a sur notre ordinateur d'existant, et se rendre compte qu'on a déjà pas mal de logiciels libres.
Alors Elisabeth Racine, c'est la vice-présidente de la thématique Experiment, je ne sais pas ce que c'est, de l'Open World Forum, donc qui est un événement autour du libre et de l'open source. Et là, c'est un tout petit article vraiment de vulgarisation, et qui est finalement assez intéressant, parce que souvent les articles ont dit « utiliser des logiciels libres, découvrez les logiciels libres, c'est bien », et là elle dit « non mais en fait, vous en avez déjà ». Et c'est vrai que c'est des choses, quand on tient des stands, qu'on dit assez souvent, les gens utilisent Firefox sans savoir que c'est un logiciel libre. Enfin, ce point de vue finalement est pas mal, c'est la première fois que je le vois dans un article.
Alors je pense qu'on en aura d'autres parce que les gens de l'Open World Forum, ils sont intelligents et ils nous sortent pas mal d'articles comme ça avant la manifestation officielle. Je sais même plus pour quand elle est prévue, mais ça permet de faire un peu de teasing, d'assurer que va y avoir des choses qui se passent. Ça donne des petites infos, des perles. Là c'est sympa parce que elle parle de collectif, d'ouverture, transparence, accessibilité. Donc c'est les mots-clés qu'elle met en avant. Donc on en verra sûrement d'autres passer, parce que moi j'aime bien ces articles-là, et puis dans la revue de presse, ça fait pas tâche.
PC Impact, en Espagne, la région de Valence fait passer tous ses PC à LibreOffice. Un article de Xavier Bern, encore lui.
Valence, c'est toute une région d'Espagne. Je rappelle, il y en a une autre qui était connue pour être passée complètement au logiciel libre, c'est Extremadura, donc ils sont pas au même endroit, c'est un peu plus loin, près du Portugal. Et là, Valence, bien, ils viennent d'annoncer des économies, parce qu'ils passent à LibreOffice.
Ça se fait dans un contexte économique super tendu, il n'y a plus d'argent, ils tirent la langue. Et donc, ce passage à LibreOffice, l'argument majeur, c'est celui du coût.
Et oui, parce qu'après tout, ils peuvent l'installer, ils ne posent pas de questions, il n'y a pas de permission à demander. Et je rappelle, on peut très facilement utiliser LibreOffice pour lire plein de formats de fichiers. On peut lire du Office tout court avec, il n'y a pas de souci, du Excel, du Word, pas de problème. Et on peut très facilement générer du PDF qui est un format vraiment apprécié parce que vous le transmettez à quelqu'un d'autre. Plutôt difficile à modifier.
Microsoft s'y est mis, il ne faut pas être mauvaise langue.
Oui, mais bon, le petit bouton avec PDF, moi ça m'amuse parce qu'ils ont vraiment galéré pour le mettre en place. Ils avaient des problèmes de licence aussi, ils se sont fait attaquer à droite et à gauche. Et alors que LibreOffice et OpenOffice, son ancêtre, avaient ce petit bouton PDF depuis longtemps.
La région de Valence donc espère économiser 1,5 million d'euros par an. Hormis cette question d'argent, ils citent quand même d'autres avantages du libre en expliquant qu'ils ont de l'indépendance par rapport aux fabricants. Et qu'ils espèrent avoir plus de disponibilité, possibilité d'adapter les logiciels à leurs besoins, enfin tous ces trucs qui, à côté de ça, à côté de la question du prix, rendent le logiciel libre intéressant.
Alors l'article, on profite pour rappeler la circulaire Hero, parce que oui, on pourrait s'attendre à ce que toutes les régions françaises s'y mettent aussi, petit à petit. L'État donne l'exemple, la circulaire Hero, qui était sortie il y a déjà quelques mois, disait les administrations, il faut passer au logiciel libre, il faut préférer le logiciel libre au logiciel privateur, et il y avait toute une série de bonnes règles, de bons usages, de façons de participer au logiciel libre qui étaient mises en avant. L'April l'a traduit en anglais, ça nous a fait plaisir de montrer au reste du monde ce qu'on faisait chez nous. Et puis l'Espagne, effectivement, c'est un exemple aussi, ils le font en partant du bas, mais ils semblent le faire très bien.
Bien Manu, merci beaucoup.
Merci à toi Luc.
On se retrouve la semaine prochaine, on est reparti pour la revue de presse hebdomadaire. Bonne semaine à tous.
Salut.